Nous sommes dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Je n'ai pas noté pour voir ce que ça voulait dire exactement, Gaius. Mais si il adresse ses paroles à Gaius, on voit tout de suite que ce n'est pas seulement à lui qu'il veut adresser ses paroles, Jean, mais aussi à toute l'assemblée, à ceux qui sont rassemblés en ce temps-là, comme en nous, à pour nous aussi. Pour nous, Gaius, il dit le bien-aimé, mais c'était vraiment au commencement qu'il y avait cette notion de bien-aimé par rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que cette personne avait cru dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il les appelait bien-aimés, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le bien-aimé du Père. Il est le bien-aimé, et les membres de son corps, ils doivent être aussi des bien-aimés. Cela vient, c'est un héritage, c'est une, comment tu veux dire? Parce que c'est une position réelle, quand il dit bien-aimé, à l'égard de Dieu, pour Dieu, bien-aimé, c'est un bien-aimé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ceux qui sont vraiment disciples de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, ils sont des bien-aimés. Nous sommes donc des bien-aimés. Et on retrouve beaucoup, surtout chez les Africains, peut-être, qui vous diront toujours bien-aimés, hein? Parce que ils ont, je sais pas, ils ont saisi cela, ils ont saisi que c'était bien ça, qu'ils étaient des bien-aimés, qu'ils appartenaient au Seigneur. Mais il faut qu'on réalise tous qu'on appartient au Seigneur et qu'on est des bien-aimés à cause de cette relation que nous avons avec notre Seigneur. Cette communion que nous avons avec notre Seigneur, c'est dans cette mesure que nous sommes des bien-aimés. Mais si nous n'avons qu'une façade, qu'une expression religieuse, alors on peut pas prétendre être des bien-aimés. Parce que du temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui étaient religieuses, qui se réclamaient du Dieu de la Bible et tout cela, mais ils n'étaient pas des bien-aimés parce que ils n'ont pas reçu le bien-aimé, qui était la parole même qui a été faite chair. La parole a été faite chair, a été manifestée dans la pratique, dans la nature, dans sa nature. C'était l'amour de Dieu qui était manifesté jusqu'au point qu'il a accepté d'être fait péché et d'être traité comme un coupable pour que le péché soit expié. Il est le seul qui pouvait, le seul qui était véritablement innocent et qui pouvait prendre la place d'un autre. Mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes aussi conduits, disons, dans la même voie, par le renoncement à soi-même et le désir de conduire beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes à connaître leur Sauveur, conduire à la connaissance du salut qui est en Jésus-Christ. Alors, c'est cette nature du bien-aimé qui est manifestée en nous, parce que nous avons cet amour pour les âmes, pour qu'elles soient sauvées, pour qu'elles expérimentent une nouvelle naissance. Parce que c'est ça, le salut consiste en ce que, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous sommes sauvés de la vieille nature et nous commençons à apprendre à nous comporter comme un fils de Dieu, comme le Seigneur Jésus a voulu. Donc, il adresse cette parole à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tous égards. Donc, dans la santé, que tu sois en bonne santé aussi, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité, la première prospérité, c'est la prospérité de la foi dans la parole de Dieu. La prospérité spirituelle, Cette prospérité, nous croyons, nous lisons, nous méditons et nous croyons dans cette parole de l'Écriture. Donc là, c'est la prospérité. Mais quand on commence à douter, à contester, c'est le commencement de la fin, je veux dire. C'est de l'incrédulité. Ça, on ne peut pas prospérer, on descend. Même si on a une certaine foi, un certain niveau spirituel élevé, et puis qu'on commence à douter, etc. On descend, on descend, on descend. La prospérité, c'est une édification. Donc, là, c'est que le Seigneur veut, comme il exprime par l'apôtre Jean ici, c'est « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire que ici, il montre que ce qui doit être fait en premier, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme prospère, alors je te souhaite aussi que le corps, la santé dans ton corps prospère. Il y a trop de gens qui pensent, oh, c'est deux choses différentes. Non, si on est dans la foi, si on marche sur la volonté de Dieu, il y a une bénédiction, Dieu apporte une bénédiction dans notre chair. Dans le domaine de notre chair, Dieu apporte une prospérité. Mais il ne va pas faire le contraire, nous faire prospérer dans le domaine matériel, et puis on néglige la prospérité spirituelle. Non, cela dépend donc. Ce qui doit être devant, c'est la prospérité de ou l'état, comme il dit ici, comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui, verset 3, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, je suis la vérité, alors on dit aussi le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est vrai que si nous reconnaissons qu'il est le chemin, alors nous allons connaître la vérité parce que nous allons marcher sur ce chemin. Si nous marchons sur le chemin, la vie de Dieu, la vie qui animait le Seigneur Jésus-Christ peut aussi se manifester en nous. Donc il s'agit d'avoir cette communion avec le Seigneur et de reconnaître la parole de vérité. Toute cette parole de la Bible, c'est la parole de la vérité. Et donc, c'est important de pouvoir la considérer et puis et prendre garde et la mettre en pratique. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Donc il y a eu des personnes avec qui le croyant, ces croyants-là auxquels il écrit, à qui c'est à Gaius et à ceux qui étaient avec lui, eh bien, il y avait des personnes qui avaient été reçues, qui avaient une communion, qui avaient vraiment entendu et qu'ils avaient vu la pratique de leur vie et ils en rendaient témoignage. Donc souvent c'est de cette manière que le Seigneur peut attirer d'autres âmes, des personnes qui ont réalisé que notre foi c'était vrai, qu'elle était vraie, qu'elle n'était pas une piété religieuse, mais que c'était vraiment la nature de Jésus qui était manifestée en nous. Alors, il dit, j'étais fort réjoui, évidemment qu'il était réjoui parce qu'il était l'ancien, comme il dit, l'ancien à Gaius. Donc, en tant que celui qui a apporté la parole, celui qui a enseigné la parole, celui qui a veillé sur le développement spirituel de ce Gaius. C'était l'ancien qui lui parlait. Alors, il dit, bien sûr. Tu penses que j'ai été réjoui quand j'ai appris que j'ai entendu le témoignage de ces personnes, et ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité qui est en toi et qui est mise en pratique, puisqu'il marche dans la vérité, c'est que il met cette vérité en pratique. Donc, c'est des sujets importants. Je n'ai pas de plus grande joie. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est vrai? Je veux dire, pour nous aussi. Pour des parents, ils apprennent que leurs enfants, ils croient ce qu'ils leur ont enseigné. Parce qu'ils mettent en pratique, ils suivent le chemin qu'on leur a fait connaître. C'est sûr qu'il y a une grande joie quand les enfants suivent le même chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et puis, ils voient qu'ils suivent vraiment le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus est vraiment le chemin pour eux, et puis qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Donc, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, verset 5, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Donc, on voit là qu'il relie à une action matérielle, on peut dire. Quand il dit, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères, et même pour des frères étrangers, ça veut dire qu'il les a vraiment reçus, logés, nourris, enfin, et il les a pas méprisés, mais il a partagé de ce qu'il avait, ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas refusé de faire ce qu'il pouvait faire pour des frères, même pour des frères étrangers. Ça veut dire que c'est facile comment dire, de recevoir quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un oui, qu'une connaissance, mais qui est un frère étranger, il se considère comme frère, mais nous, on ne sait pas si c'est vraiment un frère. Mais il faut quand même pouvoir le recevoir en tant que frère. Et puis, certainement, que si c'est un faux frère, on saura déjà le discerner, le moment venu sera manifesté. Mais l'important, c'est de pouvoir recevoir aussi bien ceux qu'on connaît que ces frères qu'on ne connaît pas, donc pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Pourvoir à leur voyage, ça veut dire dans le domaine matériel. Pas seulement les avoir reçus, les avoir considérés et avoir communié avec eux dans la foi, mais il dit même, ce que je demande, c'est pas seulement de faire le strict minimum. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Ça veut dire que, comme tu le ferais vraiment pour Dieu, pour un fils de Dieu, que tu lui viennes en aide et que tu lui aides, oui, pour la suite de son voyage. Il dit ensuite pourquoi. Il parle de qui? Il montre que ce sont des vrais témoins. Vraiment, c'est pas n'importe qui. Car, verset 7, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. C'est vrai, donc quand c'est un étranger, il faut quand même être prudent, je veux dire. Mais il faut le recevoir comme si c'est vraiment un véritable, et puis voir si c'est vraiment véritable. Après quelque temps, il va déjà manifester ce qu'il est, ou s'il est un trompeur. Mais là, il s'agissait de personnes que l'apôtre Jean, il connaissait. C'est-à-dire qu'en tout cas, on lui avait rapporté, on lui avait parlé de ces croyants-là, qui étaient partis, qui avaient été là-bas, et qui ont été reçus, et qui étaient bien reçus, et ils leur demandent de pourvoir. Tu feras bien de pourvoir. Donc ils étaient encore là. Ils n'étaient pas encore partis, ils avaient été reçus. Et l'apôtre Jean, il a entendu parler de cette façon dont ils avaient bien reçu, mais maintenant, continuez, faites encore mieux, afin qu'ils puissent repartir en toute tranquillité et poursuivre leur course. Peut-être qu'ils vont continuer à aller dans une autre région pour apporter la parole. Mais c'est bien comme il est dit ici au verset 6, ils ont rendu témoignage un peu plus loin. Non, c'est verset 7, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Donc, ils n'ont pas été soutenus par une dénomination quelconque, par un groupe quelconque, mais vraiment, ils sont partis vraiment parce qu'ils avaient à cœur de faire connaître le nom de Jésus-Christ. Et puis, ils sont partis avec les moyens qu'ils avaient, et peut-être des faibles moyens, ou presque pas de moyens, mais ils ont été accueillis par les vrais croyants. Et il dit bien encore verset 8, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Parce que au moment où on les accueille, on participe à leurs œuvres. Donc, c'est des hommes. Donc, on voit bien qu'il s'agit de personnes qui apportent le témoignage de Jésus-Christ, qui apportent le message de ce temps et qui sont prêts à aller encore plus loin dans d'autres endroits qu'ils ne connaissent pas. Et il dit, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc on voit bien combien ici, dans cet épître, Jean, il insiste sur cette chose importante, la vérité. Il faut que la vérité du salut que Dieu offre, que la vérité manifestée dans la personne de Jésus-Christ, elle soit apportée à d'autres personnes. Donc, il ne suffit pas d'avoir un esprit religieux et puis apporter des bonnes doctrines. Oui, des bonnes doctrines, mais il s'agit vraiment d'amener les personnes à connaître la vérité dans la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est là, lui qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Donc il s'agit d'avoir une communion profonde avec le Seigneur. Donc c'est pour le nom de Jésus-Christ. Et puis, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ça nous donne d'être ouvriers avec eux, de participer, de recevoir avec eux aussi la bénédiction, la joie de l'ouvrage accompli qui sera la leur. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Donc là, maintenant, il a parlé à quelqu'un qui a agi correctement et les exhorte même à aller, leur aider largement. Puis l'autre, vous avez alors Diotrèphe, lui, il veut même pas recevoir. Lui, il veut être le premier, le seul. Il veut pas être prêt à partager avec les autres, avec ceux qui arrivent, et qui aussi un témoignage à apporter du Seigneur Jésus-Christ, ne veut pas les laisser faire. Donc, il dit que c'est Diotrèphe, il aime à être le premier parmi eux et ne nous reçoit pas, point. C'est Jean qui dit ça. C'est Jean qui dit que c'est Diotrèphe ne les reçoit même pas, eux, les apôtres. Et il veut être le premier, il veut être le seul, il ne veut pas que les autres aillent à apporter l'enseignement du Seigneur. Et il dit encore, c'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Donc, on voit bien la méchanceté est une action destructrice. C'est vraiment pour détruire ceux qui auraient un témoignage à apporter. Non seulement ils pensent qu'il faut qu'ils détruisent les autres pour rester le premier, parce qu'ils détruisent les autres, bien, ils restent le seul. Alors, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il faut bien le voir. Le Seigneur a dit ça à l'avance, au commencement de l'Église. Donc, déjà dès le commencement, il y avait des personnes qui avaient l'esprit de Dieu trèfle et qui comment si on appelle celui qui apporte des mensonges, qui dit des choses fausses, mal. Il y a un mot. Qui c'est qui se connaît ce mot? Hein? Comment? Non, cherche encore un autre mot. Ce sont des menteurs. Oui, ce sont des menteurs, c'est sûr. Et des blas, non, pas des blasphémateurs. Comment?
Blasphémateur.
Pas blasphémateur. Calomniateur. C'est des calomniateurs. Et pourquoi est-ce qu'ils sont calomniateurs? Parce qu'ils veulent détruire la réputation de cette personne. Alors, ils disent n'importe quoi sur cette personne. Ils tournent des choses. Il y a des choses qui ont été dites, mais eux, ils les tournent de la façon qu'elles portent, elles portent préjudice. Et donc, ils ont des méchants propos. Non content ensuite de cela, il dit, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Donc, il se conduit dans l'Église comme un tyran, comme un dictateur, et ne reçoit pas ces frères-là qui viennent. Et puis, ceux-mêmes qui voudraient les recevoir, il les empêche, comme c'est écrit, et les chasse même de l'Église. Verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Celui qui fait le mal, c'est vrai, il n'a pas réalisé la présence de Dieu en Jésus-Christ. Il n'a pas réalisé l'abaissement auquel Dieu s'est soumis pour devenir l'un d'entre nous. Pas réalisé comment ce Dieu tout-puissant, ce Créateur, il s'est ainsi humilié et il s'est même livré entre les mains des méchants, ses frères, pour le mettre, qui l'ont mis à mort. Donc, ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, certains membres qui prétendent avoir une connaissance de Dieu. Mais en réalité, ils n'ont pas vu que c'était Dieu qui était en Jésus-Christ pour accomplir ce que personne ne pouvait accomplir. Même Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas. Il fallait que Dieu devienne un homme. Il fallait qu'il devienne un homme pour être une victime expiatoire. Il fallait qu'il prenne la nature d'un homme, qu'il vive comme un simple homme. Et finalement, qu'il offre sa vie innocente et qu'il soit chargé. Évidemment, les ennemis, ceux qui ne voulaient pas de Jésus-Christ, qui ne voulaient pas de la rédemption par le Seigneur Jésus-Christ, et c'est eux qui ont voulu éliminer. Donc, ce diotrèfle montre bien que l'esprit qui l'anime, mais qu'il fait empêcher les gens qui voudraient venir, et même ceux qui voudraient recevoir les étrangers, et il les chasse de l'Église, parce qu'il veut être absolument le seul qui soit obéi. Il ne voit pas que Dieu veut leur parler par le moyen de quelqu'un d'autre. Il n'accepte pas. Donc cet esprit doit être aussi éliminé, il doit être combattu. Il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le mal est, non, le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est vrai. Il faut avoir réalisé que c'est vraiment en Jésus-Christ que Dieu nous a libérés de cette vieille nature et a fait de nous une nouvelle créature. C'est la nouvelle créature qui peut aller de l'avant. C'est pas le vieil homme, il faut qu'il disparaisse, il faut qu'il descende. Il faut qu'il laisse la place au nouvel homme. Mais c'est ce nouvel homme qui manifeste en nous la relation que nous avons en tant que fils de Dieu. Alors, le Seigneur est glorifié. Donc, n'imite pas le mal, mais le bien. Verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. L'autre, il s'appelait comment? Diotrèphe. Il y a un Diotrèphe, et puis un Démétrius. À Démétrius, nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. D'ailleurs, ouais. Démétrius, je croyais qu'on le voyait avant, non? Je ne vois pas qu'on le voit avant, hein. Là aussi, je n'ai pas regardé quelle est la signification de son nom. Mais tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc, c'est aussi un devoir de soutenir ceux qui sont pour lesquels on... Le mensonge, on n'a pas de mensonge pour les dévaluer, pour les empêcher d'exercer leur témoignage, d'apporter leur témoignage. Il faut qu'on prenne parti aussi pour eux, puisqu'on sait, quand on sait que c'est, qu'ils sont vraiment dans la vérité, qu'ils apportent la vérité. Alors c'est important, puisque tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à ce certain à Démétrius, donc, et nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Donc, il avait beaucoup de choses à écrire, mais évidemment, pour écrire, c'est plus difficile à le faire que par la parole. Si tu peux lui parler directement, quand même, c'est plus facile que de devoir écrire toutes ces choses. Il y a un contact, mais c'est pour ça qu'il dit, j'espère, je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume, mais j'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Amen. Donc ça, c'est la fin de l'épître de Jean. Et puis ensuite, nous allons commencer avec l'épître de Jude.